Chapitre 3. Télémaque, coiffé d'une calotte de toile et ceint d'un tablier blanc, souriait sur le seuil de sa boutique, au beau soleil du matin qui inondait l'avenue poudreuse plantée de maigres platanes. Sa vue s'étendait à droite jusqu'à la caserne, d'où partait une sonnerie de clairons, et à gauche jusqu'au rond-point de l'empereur, au centre duquel se trouvait un piédestal veuf de sa statue. La large avenue était bordée des deux côtés par des constructions basses et par des terrains où s'alignaient les piquets blancs des blanchisseries. Les débits de vin au coin des rues, qui donnaient sur des terrains vagues, étaient barbouillés de rouge-brun pour attirer l'œil et provoquer de loin la soif des militaires et des ouvriers. Tout le reste, murs et terrains, était uniformément gris. Les deux maisons qui faisaient face à l'établissement de Télémaque présentaient une façade de plâtre haute de 3 étages, à Main Street, à baies serrées, ornées de bustes dans des niches, lézardées, écaillées, moisies, avec des vitrines étoilées de papier et des loques pendues aux fenêtres. Des groupes confus d'enfants et de chiens remuaient dans la poussière. Des militaires s'en allaient tout doucement vers la berge, et des femmes en jupons plats portaient des seaux ou des paniers. La boutique de Télémaque était peinte en rouge. Derrière les vitres, un aloyau et des beefsteaks s'étalaient dans des plats. Télémaque tenait par les oreilles un lapin mort et souriait. Le vif émail de ses yeux bridés et relevés de côté par la saillie des pommettes brillait sur son visage d'ébène, au nez épaté et aux lèvres lippues. Une laine encore noire floconnait sur sa tête, mais le front, dégarni par une calvitie régulière, s'élevait en fuyant et découvrait une partie du crâne dont le sommet formait une sorte de crête. Milagoan, assise sur son derrière, regardait avec intérêt les hommes, les bêtes et les choses. Mais libre de passion et l'âme en peine, elle se chauffait tranquillement au soleil. Parfois, allongeant sa tête intelligente, elle léchait de sa langue en volute le sang coagulé au museau du lapin que Télémaque laissait pendre. Puis, satisfaite de cette sensualité délicate, elle contemplait de nouveau l'avenue, avec un frisson dans la queue. Télémaque retourna comme un gant la peau de son lapin, ayant posé sur une petite table l'animal écorché, brillant des plus beaux tons, il le découpa droitement et mit les morceaux sur un plat. Puis il rentra dans la boutique, dont la porte extérieure s'ouvrait sur un petit jardin garni de tonnelles. Ayant préparé très proprement son civet, il s'assit, tandis que la casserole de cuivre rouge chantait sur le fourneau, et resta songeur. Ses yeux, qui semblaient fraîchement peints sur un joujou tout neuf, ne regardaient plus rien. Télémaque voyait sans doute autre chose que son fourneau aux carreaux de faïence, le comptoir d'étain et les tables de toile cirée, car il murmurait un chant étrange et doux et parlait à des absents. Enfin, ayant donné un regard au civet qui, comme disent les cuisiniers, partait sur un feu doux, « Miragoan, dit-il, garde la boutique !» Miragoan tourna vers lui son œil intelligent et s'avança jusqu'au seuil de pierre qu'elle occupa d'un air importance. Télémaque monta dans une très belle chambre, tendue d'un papier historié, sur lequel une chasse aux sangliers était indéfiniment répétée. Cette chambre, meublée d'une armoire de noyer, d'un lit à rideaux de cotonnade blanche et de 4 tables, servait à la fois de chambre à coucher aux restaurateurs et de salle à manger aux sociétés du dimanche. Télémaque prit dans l'armoire une caisse qu'il posa sur la table et qu'il ouvrit avec précaution. Cette caisse était pleine d'objets enveloppés dans des foulards et dans des papiers. Il en tira successivement un châle rouge, des épaulettes à graines d'épinards, des anneaux d'oreilles, une croix et une plaque d'ordres inconnus, et un grand chapeau galonné dont les deux cornes étaient terminées chacune par un énorme gland d'or. Quand ces trésors furent étalés sur la table, Télémaque les contempla avec son regard étonné de petit enfant, puis il mit sur sa tête crépue le chapeau dont les glands se balancèrent. Il s'enveloppa du châle rouge de sa femme Olivette et se contempla dans son petit miroir à barbe. Il revécut alors sa vie passée et remonta jusqu'au temps où il était général. Il revit les éblouissements du sacre de Sa Majesté Faustin Ier, les manteaux bleus des ducs, des princes et des comtes, les habits rouges des barons, la face noire de l'empereur, ceinte d'une couronne d'or. Olivette, amenée en robe à queue dans une brouette et se rangeant parmi les dames au milieu de la nef de l'église. Tout lui était présent. Les mille couleurs des habits, les coups de canon, la musique militaire et les cris de « Vive l'empereur !» Puis il revit les fêtes somptueuses du palais impérial, quand, sous les feux des bougies et les pendeloques de cristal, les magnifiques poitrines noires des dames de la cour faisaient craquer les corsages de mousseline blanche dans l'état furieux des danses. Il revit les soldats alignés sous ses yeux dans la pleine aride et lumineuse. Tous, rangés en bataille, lui présentaient les armes. Et lui, Télémaque, les mains derrière le dos comme le Napoléon des estampes, passait entre les rangs et disait: Soldats, je suis content de vous! Puis des tableaux plus sombres se déroulèrent dans son imagination. Il revit les événements qui avaient précipité sa chute. Quand, en décembre 1851, développant avec la toute-puissance de l'empereur son génie d'enfant peureux et cruel, Soulouque eut l'idée de faire la guerre à la République dominicaine. Le général Télémaque fit partie, à la tête de sa brigade du corps expéditionnaire, commandée par le général Voltaire Castor, comte de Lille-la-Vache. L'empereur avait dit dans sa proclamation à l'armée: Officiers, sous-officiers, soldats, les hommes de l'Est, les bouviers de Saint-Domingo, fuiront devant vous, ayez! Et plein de confiance dans sa parole de son empereur, le général Télémaque, coiffé de son chapeau à gland, portant sur sa poitrine la plaque de l'ordre impérial et militaire de Saint-Faustin et le grand cordon de la Légion d'honneur haïtienne, galonné, chamarré, les pieds nus, marchait fièrement à la tête des régiments noirs qui formaient l'avant-garde, quand tout à coup une vigoureuse mousqueterie le surprit sur la lisière d'une plantation de bananiers. Étonné, indigné, consterné, il tourna vers ses troupes sa face décomposée et s'écria avec une éloquence sincère: L'empereur a moqué pauvre monde! À ces paroles du général, la brigade tourna les talons et s'enfuit à toute vitesse. Télémaque, faisant jouer les ressorts de ses jarrets de singe et tirant la langue, reprit la tête de la colonne, sans se soucier des fusils, des tentes, des paquets de cartouches et des caisses de biscuits abandonnées en route. Soulouque, sur la nouvelle de cette opération militaire, trembla de tous ses membres et, pour se redonner du cœur, fit fusiller le général Voltaire Castor. Il donna l'ordre d'arrêter le général Télémaque, qui resta caché 8 jours dans les palais Thuviers. Le consul français, à la prière de la belle Madame Sainte-Lucie, recueillit Télémaque et le fit passer à bord de la Naïade, qui appariait à destination de Marseille. À ce souvenir, Télémaque prit la mine d'un chien intelligent qu'on a fouetté, et remit les croix, les épaulettes et le chapeau dans les foulards. Il regarda par la fenêtre avec inquiétude si personne ne passait dans l'avenue, Et ayant replacé le précieux coffre dans l'armoire fermée à clé, il descendit dans la boutique et versa quelques gouttes d'eau dans la casserole odorante qui chantait. L'horloge, accrochée au-dessus de la salle de comptoir, marquait 11 heures. Une nuée de petits galopins tigna ses bouriffés et qui laissait passer des bouts de chemise parmi les trous des culottes, s'abattit dans un nuage de poussière contre la porte vitrée, et des cris aigus sortaient de ce nuage. Télémaque parut sur le seuil avec une soupière pleine de débris de volaille et de restes de friture enveloppés proprement dans des morceaux de papier. Milagoan, attentive et grave sur le seuil et la queue frissonnante, surveillait la distribution. Le petit peuple assiégea en se culbutant les deux jambes de Télémaque, qui commanda d'un ton nasillard particulier « Droit alignement !» Alors les enfants se rangèrent en ligne, les bras pendants, le cou tendu, les yeux agrandis par la convoitise. Télémaque les examina quelque temps avec une gravité joyeuse, puis « Répondrez à l'appel, dit-il, numéro 1, numéro 2, numéro 3. » Et il donnait à chacun sa ration. Les numéros 1, 2 et 3 s'enfuirent, serrant des deux mains leur part de friandises contre leur ventre, et la dévorèrent chacun dans un coin, en promenant à la ronde des regards défiants. Numéro 4, numéro 5, numéro 6. Le numéro 6, qui était roux, bouscula le numéro 4, qui boitait et dont il fit rouler l'os de poulet dans le ruisseau. Miragoan dressa l'oreille. Le numéro 4 reprit son os, et le général Télémaque, ayant ainsi pourvu à l'ordinaire de son armée, retourna à ses fourneaux. Ayant reconnu que le civet était en bon point, il tira d'un tiroir un petit fusil de bois peint en rouge et appela Miragoan. Elle s'approcha, l'oreille basse, d'un air qui voulait dire « Mon Dieu, à quoi cela peut-il servir? Nous avons tort de compliquer inutilement la vie. N'éprouve aucun plaisir à faire l'exercice. Mais je consens à le faire pour être agréable à mon maître Télémaque. » Et Miragoan, debout sur ses pattes de derrière, reçut contre son ventre rose le petit fusil de bois. Posez armes, présentez armes. Miragoan manœuvra au commandement. Mais ses jarres réfléchissaient. Elle retomba sur ses quatre pattes, et laissant son arme sur le carreau, elle s'en alla en se secouant au seuil de la boutique. C'est mauvais, c'est mou, dit Télémaque. Nous recommencerons ça demain. Mais Miragoan, immobile, en arrêt, boya deux fois. Puis elle se mit à courir du seuil au fourneau en faisant sonner ses ergots sur le carrelage. Rémi, coiffé d'un chapeau de paille en cloche à melon, selon la mode des canotiers, entra dans la boutique et se fit connaître à Télémaque, qui, dans sa joie, lui tourna le dos sans rien dire pour déboucher une bouteille de vin blanc. C'est vous, Moucher, dit le nègre, vous, Moucher Rémi, le fils de Moucher le ministre et le filleul de ma pauvre femme Olivette, qui vendait de l'arac, des cocos et des sapotilles à Port-au-Prince. Des hommes de couleur l'ont tué méchamment dans son bazar et ont bu son tafia. Le fait a été mis au lot en lettres moulées dans le moniteur d'Haïti. C'est le consul, Moucher Morel Lavasse, qui me l'a fait lire. Et j'en eus du chagrin parce que Olivette était une bonne femme. Comme je suis content de vous voir, mon cher ami. Olivette était plus jeune quand je l'ai épousée. On riait de Télémaque qui se mariait avec une vieille femme, mais Télémaque savait que plus une femme est vieille, mieux elle fait la cuisine. Asseyez-vous, mon cher ami. Voilà un vin blanc qui ne vieillira plus, car nous allons le boire. Et le noir se mit à rire longuement. Quand il eut débouché la bouteille, soufflé sur la cire du goulot et rempli les verres, il devint songeur et dit « La vie dure pas toujours, mais la mort dure toujours. » Puis approchant ses grosses lèvres de l'oreille de Sainte-Lucie, il ajouta tout bas « Aussi j'ai là-haut dans un sac une bonne somme d'argent pour faire construire un beau tombeau à Olivette. » Et il recommença de rire. Il demanda des nouvelles de Madame Sainte-Lucie, qui était une si belle femme, et il voulut savoir ce que Rémy faisait à Paris. « Je me prépare au baccalauréat, » répondit le jeune homme en bâillant. Télémaque ne savait pas ce que c'était que le baccalauréat, mais il pensait que ça devait être quelque chose de bon. Il choqua le verre en fermant à demi ses yeux câlins. Puis il demanda à Rémy s'il n'était pas, s'il ne serait pas général. « C'est beau, » ajouta-t-il, « c'est en soupirant, c'est beau, mais un général a quelquefois des désagréments. » Rémy, que le noir amusait, dit « Télémaque, vous avez été général sous ce méchant singe de Soulouk. » Télémaque se troubla. Ses grosses têtes tremblèrent, il balbutia « Mon cher Rémy, faut pas parler ainsi de l'empereur. » Rémy avait entendu dire à son père que le général avait une peur effroyable de Soulouk qu'il croyait encore vivant. C'est pourquoi il ajouta « Craignez-vous que l'ombre de Soulouk revienne la nuit vous tirer par les pieds ? Il y a 10 ans que sa majesté est morte. » Le noir secoua lentement la tête. « Non, mon cher Rémy, » dit-il. Et Rémy eut beau dire que tout le monde savait que Soulouk était mort en 1867 à la Jamaïque. Le noir répondit « Non pas, mon cher Rémy, l'empereur n'est point mort, il est caché. » Et le front de Télémaque se plissa sur son crâne dur. De la casserole de cuivre s'exhalait une bonne odeur de chair et d'aromates. Le noir redevint heureux et dit en riant « Nous allons déjeuner, mon cher Rémy. » Il mit la nappe et le couvert sous une tonnelle tapissée de vignes vierges. Le petit jardin du cabaretier donnait sur des champs de salade. Le talus du chemin de fer de Versailles fermait l'horizon. Rémy regardait vaguement cette maigre campagne. Quand Télémaque reparut, la bouche ouverte jusqu'aux oreilles, dans la fumée d'un plat qu'il portait les deux mains. « C'est quelque chose de bon, bon, mon cher Rémy, » dit-il. Et ils déjeunèrent de grand appétit. Miragohan, chargé de garder la boutique pendant le repas, tournait par intervalles vers les convives un regard résigné. Quand ils en eurent fini avec le civet de lapin, arrosé de vin d'Argenteuil, ils s'attardèrent aux sensualités du fromage de brie étalé sur le pet tendre. Télémaque, vous êtes très bien ici, dit Rémy, qui s'y trouvait lui-même à souhait. Mais, comme il est dans la nature humaine de former sans cesse de nouveaux désirs, Télémaque poussa un soupir et dit Savez-vous ce qui manque à mon établissement, mon cher Rémy ? Il manque mon portrait, peint dans un cadre doré. Mon portrait peint serait quelque chose de beau au-dessus du comptoir. J'ai là-haut dans un sac d'une grosse somme d'argent pour le tombeau d'Olivette, mais j'en casserai bien un petit morceau pour le peintre qui ferait mon portrait. » Sainte-Lucie répondit que le général aurait son portrait sans écorner le mausolée de la marraine Olivette. « Je suis peintre, » dit-il à Télémaque, ébloui. « Quand je reviendrai, j'apporterai ma toile et ma boîte de couleurs, et je ferai votre portrait. » Deux militaires, annoncés par les aboiements de Miragohan, demandèrent 2 canettes. Tandis que Télémaque disparaissait sous la trappe qui fermait l'escalier de la cave, Rémi, dont la pipe s'était éteinte, alla prendre sur le comptoir une allumette. Alors il vit passer sur l'avenue le petit vieillard qu'il avait aperçu dans le salon doré des dames de la rue des Feuillantines. C'était bien le même petit vieillard, portant les mêmes favoris blancs et le même parapluie. Télémaque, Télémaque! Cria le jeune homme. La trappe soulevée laisse apparaître Télémaque, comparable à un génie souterrain mais bienveillant. Il riait entre les deux bouteilles de bière, qu'il eut immédiatement débouchées pour les servir aux militaires attablés. Mais Rémi le tira vigoureusement par sa veste blanche et l'amena surpris au seuil de la boutique. Télémaque, connaissez-vous ce vieux monsieur? Demanda-t-il en montrant du doigt le dos voûté du bonhomme. Le noir, pressant les deux bouteilles contre sa poitrine, répondit avec un gros éclat de rire. Certainement, mon cher ami, c'est mon propriétaire, il se nomme Moucher Sariette. Je lui demanderai de me faire des réparations dans mon grenier. Rémi, sans lâcher la veste du cuisinier, dit précipitamment. Télémaque, ne demandez pas de réparation à ce vieillard. Puis il ajouta d'un ton presque menaçant. Payez-vous votre voyer, Télémaque. Mais comment penser que le restaurateur qui habitait la même maison depuis 21 ans ne paya pas son loyer? Rémy apprit ensuite que M. Sariette passait pour riche, vivait le plus souvent en Normandie, où il avait du bien, et mesurait les monuments publics avec son parapluie. Le jeune homme enthousiasmé s'écria: Ma Télémaque, je ferai votre portrait. Je vous peindrai en général, avec un habit de marchand de vulnéraire, un chapeau à panache rouge et quatre épaulettes. Mais le noir prit un air grave et contrit. Ce sera quelque chose de beau, mon cher Rémi, dit-il. Mais il ne faut pas faire cela à cause de l'empereur qui se fâcherait. Il est caché. Vous me peindrez avec un habit noir et vous mettrez 3 diamants à ma chemise. En descendant l'avenue de Saint-Germain, Rémi, bien que totalement dépourvu de réflexion et jamais surpris de ce qui se passait autour de lui et en lui, se demanda pourquoi il s'était senti tout remué en voyant passer le vieil ami des dames de la rue des Feuillantines. Être gris-perle, la nuit du jour des rois et le rendez-vous à la fontaine, le moraliste branchu se fit de ces événements une conception idéale. Non seulement il ne songeait plus à répandre le sang de Sainte-Lucie, mais le créole devenait, dans l'esprit du philosophe, absolument étranger à ces événements mémorables. Branchu parvint, avec le seul aide du sens intime, à connaître la vérité sur son aventure. Plein de mépris pour les affirmations de Rémy, qui s'avouait hautement l'auteur de la lettre gris-perle, il savait avec toute la certitude de l'intuition que cette lettre était écrite par une femme exquise et désolée, d'une nature et d'une condition rares. Par une suite d'inductions, dont les lobes cérébraux d'un métaphysicien étaient seuls capables, le moraliste se démontra jusqu'à la plus limpide évidence que cette femme était une princesse danoise, qu'elle se nommait Vranga, et qui a revêtu des parures d'une poésie étrange et mélancolique pour se rendre à la fontaine des quatre évêques, elle était tombée morte dans son boudoir, au milieu des plantes tropicales dont le parfum, symbole de son amour pour Branchu, était délicieux et mortel. Et à mesure que ces faits élégants et tristes lui apparaissaient par suite d'un examen subjectif et d'une enquête intérieure, le moraliste en faisait part à son ami Labane, qui n'y trouvait rien d'extraordinaire. Les découvertes successives que faisait Branchu au sujet de la princesse Vranga eurent pour effet de le plonger dans une tristesse éloquente. Je dois expier, disait-il, par des tortures choisies, l'incomparable crime d'avoir causé la mort d'une créature d'élite, fine comme un cheval de race et savante comme Hypatie. Des frissons douloureux coulaient tout le long de son nez expressif. Vranga était son unique entretien. Il ne vivait plus qu'avec la morte. Dans son désespoir, il oubliait d'emprunter des habits à la banne. Drapé dans sa couverture de cheval comme dans un suaire, il errait avec une mélancolie hautaine sur le boulevard Saint-Michel. « Vous voyez, disait-il aux amis qui l'arrêtaient, je suis en deuil. » Et il montrait sur sa tête quelque chose qui ressemblait à un crêpe autour de quelque chose qui ressemblait à un chapeau. Pendant que le philosophe Branchu menait ainsi le deuil de la princesse Vranga, Sainte Lucie témoignait à l'hôtesse du chat maigre une froideur croissante. Il ne se hasardait jamais seul dans l'établissement et évitait de s'écarter de ses compagnons pour aller prendre les allumettes sur une table voisine de la fontaine où Virginie rinçait perpétuellement des verres. Il devenait sérieux et faisait de la peinture avec zèle. D'ailleurs, il y avait maintenant dans l'atelier de Labanne un rude travailleur, un gaillard musclé et érable, qui, la chemise ouverte sur sa poitrine, velue et les manches de retroussées, peignait tout le jour sans rien dire. Sa tête de paysan, terreuse et ravinée, plantée d'une barbe rude, n'exprimait aucun sentiment. Ses yeux ronds regardaient toujours et ne faisaient jamais rien voir. C'était Potrel, Potrel dont Virginie dénonçait l'ingratitude. Revenu de Fontainebleau où il avait passé 2 ans à peindre, il peignait chez Labanne en attendant que l'atelier qu'il avait loué à Montmartre fût vacant. Potrel parlait peu et mal. Penché sur sa toile, sa palette à la main et clignant de l'œil, il répondait aux théories de Labanne ce seul mot « possible » qu'il articulait en ranimant par une aspiration le fourreau culotté de son brûle-gueule. Labanne lui dit un jour « L'absolu étant irréalisable, l'artiste peut atteindre la beauté absolue. »« Possible, » répondit Potrel. Et il continua de peindre. Il faisait venir un modèle, un admirable petit Italien, pleurnicheur et narquois, qui lui volait son tabac. Sainte Lucie put alors essayer des académies. Quand Potrel se levait de son tabouret pour se dégourdir les jambes, il donnait à Rémy quelques indications brèves et nettes et se remettait à son morceau. Un matin, pourtant, il se grattait la barbe et se rongeait les ongles. Rémy lui demanda pourquoi il ne faisait rien. Potrel étendit la main dans la direction du châssis et dit « Ce sacré bibelot m'empêche de peindre !» Le bibelot n'était autre que le soleil qui répandait sur l'atelier une lumière aveuglante. Potrel mangeait beaucoup. Il allait dans les cabarets des cochers. Quand Rémy lui parlait du chat maigre, Potrel se contentait de sourire. Un jour, pourtant, il demanda si Virginie avait toujours de belles formes. Après beaucoup de tentatives vaines, Rémy put l'entraîner un soir dans l'établissement de la rue Saint-Jacques. Virginie, rouge comme une pivoine, servit à l'ingrat une large tranche de jambon. « Mangez, monsieur Potrel, lui disait-elle. C'est bon, c'est fin. Voyez, le gras en est tout blanc. Vous ne buvez pas, mais goûtez cette bière. Je l'ai mise en bouteille le mois dernier. Vous aimiez la bière, autrefois. » Et Potrel mangeait, buvait, tandis que, debout contre sa chaise, Virginie, illuminée d'un sourire séraphique, se pâmait à chaque bouchée et cavalait cet homme silencieux et robuste. Rémy sortit de la brasserie sans que l'hôtesse y prît garde. Et il soupira d'aise comme un homme délivré d'un grand poids. En rentrant chez lui, il rencontra le portier de la maison des deux dames qui entrait chez le marchand de vin et la portière qui babillait avec la fruitière à une assez bonne distance. Alors il lui vint une idée subite. Il entra dans la loge abandonnée et chercha s'il ne pourrait pas y découvrir le nom des dames du quatrième étage. Il trouva sur le casier des lettres cette mention: Madame Lourmel, rentière. Le lendemain, il vit par la fenêtre Mademoiselle Lourmel qui versait à boire aux oiseaux dans un petit gobelet de porcelaine. Il la regarda sans le vouloir avec la chaleur d'une vive sympathie. Elle le vit et ne détourna de lui que lentement son regard naïf et brave. Il remarqua qu'elle n'était plus une enfant et qu'elle était jolie. Il allait dans ce temps-là plusieurs fois la semaine à Courbevoie. Et le portrait de Télémaque sortait peu à peu de la toile. C'était un très mauvais portrait, mais Télémaque en était enchanté. Le soir, quand sa boutique était fermée, il mettait le portrait sur une table entre deux chandelles et il dansait la calenda ou bien une chantonnette avec un azimandou. Kangano killa kangali. Miragoan, assis sur son derrière, assistait gravement à cette cérémonie. Il lui arriva un jour de lécher affectueusement le nez encore frais du portrait. Le dommage qui en résulta fut aisément réparé. Télémaque regretta un moment qu'il n'eût pas sur la toile, à côté de lui, Olivette en châle rouge. Mais il en prit son parti et dansa de nouveau la calenda. Rémi songeait en se levant qu'il avait terminé la veille le portrait de Télémaque et que c'était en son genre un morceau remarquable. Il vit avec plaisir, dans le cadre de la fenêtre voisine, les deux petites mains qui frappaient les touches du piano. Elles n'étaient plus rouges et frappaient moins sec. Mais il remarqua que le lustre était emprisonné dans une housse de mousseline et qu'un grand remue-ménage se faisait dans l'appartement si calme d'ordinaire. Les petites mains fermèrent le piano, disparurent, puis reparurent avec des sacs de maroquins et des cartons à chapeau. Rémi, qui pressentait quelque grave événement, ne quitta pas son poste d'observation et surveilla les abords de la place. Au bout de 2 heures de faction, il vit le portier chargé d'une pyramide de malles et de cartons, une voiture de place arrêtée à la porte, puis il vit la bonne de Madame Lourmel entassée dans la voiture des sacs de voyage et des cartons encore. Alors, saisissant sa boîte de couleurs et vidant dans sa poche le tiroir aux écus de son secrétaire, il se précipita nu-tête en vareuse, en pantoufles, dans l'escalier et dans la rue. Il arrêta au passage un cocher étonné, le lança à la suite du fiacre dans lequel il venait de voir entrer un bout de jupe et qui déjà s'ébranlait sous sa pyramide chancelante. Les deux voitures traversèrent Paris et s'arrêtèrent l'une derrière l'autre dans la cour de la gare Saint-Lazare. Rémi suivit les deux dames et gravit derrière elles, dans son costume de chambre, l'escalier de la gare. Mademoiselle Lourmel tourna la tête pour voir cet étrange voyageur qu'elle reconnaissait fort bien. Elle le regardait avec une surprise qui contenait en même temps de la raillerie et de l'admiration. Il joignit Madame Lourmel au guichet des billets, l'entendit demander 2 billets pour Avranches, prit après elle 1 billet pour Avranches et respira. Il était 4h12 et le train partait à 4h35. Madame Lourmel alla avec sa fille faire enregistrer ses bagages. Rémi n'avait à accomplir aucune formalité de ce genre, mais il lui restait à faire quelques emplettes utiles. Il courut chez un marchand d'habits de la rue de la Pépinière, prit sans regarder 2 ou 3 costumes et paya le marchand, qui contint une forte envie de faire arrêter cet acheteur extraordinaire. Mais Rémi poussa un cri de détresse. « Des souliers ! » s'écria-t-il, « des souliers !» Le marchand, bel israélite à tête de bouc avec une bouche avenante et des yeux impitoyables, répondit froidement, qui ne tenait pas l'article chaussure. « Les vôtres, donnez-moi les vôtres !» s'écria Rémi désespéré. Mais l'Israélite, de plus en plus inquiet, fit une mine si sombre que Rémi s'échappa en pantoufles avec ses habits qu'il revêtit en chemin dans le fourmillement de la rue bruyante. Il décrocha dans une boutique voisine et paya au vol un chapeau. Il était 4h27. Rémi s'élança vers la gare et entra à 4h32 dans la salle d'attente qui n'avait peut-être pas encore reçu un voyageur en pantoufles. Deux yeux couleur de violette qui l'accueillirent à son entrée semblaient lui dire « Nous vous attendions, vous êtes bien extraordinaire avec votre teint brun, vos habits neufs endossés à moitié et vos savates du matin. Mais vous ne nous faites ni peur ni chagrin, vous ne nous paraissez pas méchants et vous avez un air hardi qui ne nous déplaît pas. Voilà tout ce que nous avons à nous dire. Pour le reste, adressez-vous à maman. » Si les deux yeux de Violette parlaient ainsi, les regards de Madame Lourmel trahissaient cette sorte d'inquiétude qu'on voit aux poules quand on attire un de leurs poussins en lui jetant des miettes de pain. Rémi ramassa discrètement la mère et la fille seules dans leur voiture et s'installa à l'autre bout du train. Assis sur sa banquette, il se demanda d'abord où et quand, comment il pourrait acheter des souliers, puis contemplant son argent et trouvant qu'il avait encore 21,35 francs, il se sentit très rassuré. Enfin, il se demanda si par hasard il ne serait pas amoureux de Mademoiselle Lourmel. 8 jours après le départ de Rémy, M. Godet-Laterrasse, pris d'une subite ardeur pédagogique, s'achemina un tacite dans sa poche vers l'hôtel de la rue des Feuillantines. Il apprit là que son élève était disparu. Un nuage passa sur son front sublime, sur ce front qui, s'il eût été un miroir, n'eût reflété que le ciel, les goélands du Pacifique et les constellations des deux mondes. Les esprits supérieurs ont plus souvent que les autres des pressentiments. C'est pourquoi, abjurant une vieille inimitié, il se rendit à l'atelier de Labanne. Le sculpteur, qui n'avait aucune idée du temps et de l'espace, ne put rien lui dire. Mais il le conduisit chez la nourrissante Virginie, qui attribua la disparition de Rémy à un chagrin sur la nature duquel elle ne s'expliquait pas. Mais elle insinua qu'elle pouvait ne pas être étrangère à cet événement. Si, comme elle le craignait, M. Sainte-Lucie avait cédé à un désespoir d'amour, elle en était désolée. Mais on ne peut pourtant pas contenter tout le monde quand on n'est pas une femme comme il y en a tant. Elle n'avait rien fait pour que M. Rémy fût jaloux de M. Potrel. Elle termina en déclarant qu'elle était une honnête femme et qu'elle n'avait rien à se reprocher. Elle prit le tableau du chat maigre à témoin de son innocence et retourna dans l'ombre où elle avait coutume de rincer des verres. M. Godet-Laterrasse regagna soucieux les hauteurs de Montmartre. Il en descendit le lendemain sur une impériale d'omnibus et retourna à l'atelier qu'il avait choisi pour centre d'opération. Il y trouva le moraliste branchu, occupé, dans sa couverture, à rédiger un traité sur l'amour. Plein de son sujet, branchu l'exposa. « L'amour, dit-il, est absolu qu'entre deux êtres qui ne se sont jamais vus. Deux âmes ne sont en parfaite harmonie que dans l'absence éternelle. La solitude est la condition nécessaire de la passion définitive. » M. Godet-Laterrasse résista aux séductions d'un duel oratoire dans ces régions sublimes. Il demanda au moraliste s'il n'avait pas vu Sainte-Lucie. La disparition du créole, que Branchu ignorait totalement, fit jaillir de la tête du philosophe une infaillible intuition. En un clin d'œil, bien des choses lui furent révélées. Selon lui, cette disparition n'était pas sans une étroite connexité avec la mort de la princesse Vranga. La conduite ténébreuse de M. Sainte-Lucie, dans les circonstances qui précédèrent et accompagnèrent la fin lamentable et poétique de la princesse, était de nature, aux yeux du moraliste, à laisser un remords éternel dans l'âme de ce jeune homme, léger en apparence, mais machiavélique en réalité. La princesse Vranga devait mourir, ajouta le philosophe avec sérénité. Il était nécessaire qu'elle mourût pour que l'amour qu'elle avait conçu pour moi se réalisât dans l'absolu. Mais en interceptant à plusieurs reprises les lettres que la princesse m'écrivait, et dont j'ai rétabli le texte par intuition, et en ne me livrant que la dernière avec une ironie satanique, M. Sainte-Lucie a commis un crime qu'il a très probablement conduit au suicide. Ainsi parla Branchu, dont le nez vibrait sur une face livide, plaquée de rouge, sous des yeux injectés et hagards. La banne survint à temps pour entraîner dans la rue le malheureux précepteur, qui agitait éperdument son parapluie au-dessus de sa tête. « Mon pauvre moraliste, s'écria Laban, jamais il n'a eu de plus belles idées. Un grain de phosphore dans le cerveau, oh, c'était un homme de génie. Mais il y a deux grains de phosphore, voilà le malheur. » Laban se rappela que Sainte-Lucie lui avait parlé avec enthousiasme d'un général noir, aubergiste à Courbevoie. Le sculpteur pensait que ce nègre serait quelque chose. D'ailleurs, il avait envie de le voir. Ils montèrent sur l'impériale d'un tramway qui les conduisit à la place de l'Étoile. Laban s'arrêta instinctivement au premier café qu'il vit et s'abandonna devant l'échoppe à d'interminables bavardages. Monsieur Godel Laterras lui répondit longuement. Laban ne l'écouta pas et lui répondit. De belles théories furent ainsi déroulées. Tout à coup, le sculpteur donna un coup de pouce dans l'air et dit « Il y aurait un moyen de rendre cette chose supportable à l'œil. » La chose, c'était l'arc de triomphe. « Ce moyen est simple, mais vous verrez qu'on n'y pensera pas. Il suffirait toutefois d'établir au pied de l'édifice un nombre suffisant de savetiers, d'écrivains publics et de marchands de pommes de terre frites, ceci très utile à cause de la fumée. Les échoppes devraient être sordides et accompagnées d'enseignes incorrectes ainsi que de figurations grossières. On permettrait à ceux qui les construiraient d'enlever les pierres aux monuments, surtout aux angles, ce qui en atténuerait très avantageusement la dureté. Il serait bon de combler les trous qui résulteraient de ces divers descellements avec des pelletées de terre dans lesquelles on sèmerait des faines et des glands. Les hêtres, les chênes, en déployant à diverses hauteurs leurs bouquets verts, romperaient la monotonie des surfaces grises et, en poussant leurs racines dans la maçonnerie, détermineraient des lézardes d'une sinuosité pittoresque. Il faut beaucoup de lierre, mais cette plante grimpante ne nous fera pas défaut, elle vit sur la pierre. Les vents et les oiseaux sèmeront dans la poussière des fissures la giroflée qui aime les vieux murs et mille autres graminées. Le saxifrage, avide d'humidité, la ronce et la vigne vierge naîtront et pulluleront à l'aventure. Le faîte de l'édifice sera dentelé de pigeonniers. Les hirondelles maçonneront leur nid sous les voûtes. Des compagnies de corbeaux, attirées par les cadavres des loirs et des mulots, s'abattront sur les corniches à la tombée de la nuit. Alors, l'arc de triomphe, entretenu de la sorte avec un soin intelligent, pourra être regardé par les poètes, copié par les peintres et considéré comme une œuvre d'art. Les garçons, un boc! La nuit tombait, l'artiste et le penseur renoncèrent à pousser plus avant et reprirent le tramway de Montparnasse. Pendant que Madame Lourmel s'installait avec sa fille dans une petite maison de pierre grise et de chaume sur une plage peu fréquentée à quelques kilomètres d'Avranches, Rémi, joyeux et trempé d'eau salée, s'en allait à une foire voisine avec sa boîte de couleurs. Il ne lui restait que 14,70 francs, mais il avait des souliers. Des files de charrettes s'alignaient aux abords de la place, et c'était sous le quinconce une grande confusion de faces rougeaudes à collier de barbe blonde, d'échinés de veaux sur lesquels s'écaillait la bouse, de cornes, de groins, de croupes luisantes et de coiffes blanches. Les cris des cochons qu'on tirait les charrettes dominaient la vague rumeur des bêtes et des gens. Tandis que les femmes, une chaîne d'or au cou, sur le fichu de coton, se tenaient roides dans leurs jupes plates, près des charrettes, et veillaient âprement les hommes, en bas bleus, à plis bouffants, traitaient leurs affaires en buvant du cidre dans le cabaret plein de mouches. Rémi passa sous la branche de houx et s'installa avec son papier et ses crayons à une des tables du cabaret. Il fit un portrait, puis un autre, puis celui de tous les paysans qu'il regardait. Il demandait 20 sous de chaque portrait, mais les bourses ne se déliaient pas. « Allez chercher vos amoureuses, dit l'artiste, je vais les croquer. » Il y eut une rumeur dans la foule, et une grosse fille fut poussée devant Rémi par 3 ou 4 compères d'une extrême jovialité. Elle était pourpre, presque violette, et riait d'une oreille à l'autre. Rémi fit un croquis où la fille était reconnaissable à sa coiffe et à sa croix. Un des joyeux compères chercha dans un bas de laine une pièce blanche pour le peintre et mit sous sa blouse le dessin proprement plié en quatre. L'opinion fut que le Parisien tirait bien les ressemblances, et Rémi s'en retourna avec quelques pièces blanches dans ses poches. Il coucha dans l'auberge la plus rustique du village, où Madame Lourmel s'était établie, et parut le lendemain sur la plage blonde où des cabines bariolées étaient rangées en ligne. La mer bleue à l'horizon montait lentement et déferlait sur le sable en lames huileuses et verdâtres frangées d'écume. Un ciel humide et doux, un de ces ciels perfides qui caressent et brûlent la peau tendre des citadins, fermait l'horizon circulaire. Le vent modéré qui soufflait du large taquinait les toilettes des Parisiennes. Des femmes grêles en costume de bain et la chevelure prise dans un bonnet de toile gommée couraient au-devant de la lame. Il aperçut Mademoiselle Lourmel dont le voile violet flottait librement. Il eut envie de lui sauter au cou, mais il vit déboucher à l'angle d'un petit chemin qui mourait sur la grève Monsieur Sarriette, avec ses mêmes favoris blancs et son même parapluie. Bonjour, Monsieur Sarriette, dit-il au vieillard, surpris. Au bout d'un quart d'heure, ils étaient bons amis. J'aime beaucoup les vieux monuments, dit Monsieur Sarriette. Et tel que vous me voyez, j'ai passé 3 semaines à mesurer tous les murs de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Par une habitude qui m'est particulière, je me suis servi de mon parapluie pour prendre ces mesures. Ainsi, les remparts ont une hauteur moyenne de 72 parapluies. Et dans l'église, les colonnes de la nef ne mesurent pas moins de 37 parapluies, 3 becs et 2 bouts ferrés. Monsieur Sarriette fut enchanté d'apprendre que Rémi était peintre. Ils convinrent d'exploiter ensemble tout l'Avranchais. Monsieur Sarriette mesurerait les monuments historiques et Rémi en prendrait des croquis. Présentez-moi à Madame Lourmel, dit Rémi. Et sur ces mots du bonhomme, Monsieur Rémi Sainte-Lucie, fils de Monsieur Sainte-Lucie, ancien ministre à Haïti. Rémi s'inclina devant Madame Lourmel, muette de surprise, et devant la jeune fille qui ouvrait démesurément ses yeux de violette, tandis que sa bouche s'épanouissait. Le soir de ce jour, Madame Lourmel et sa fille, accoudées à la fenêtre, respiraient l'air chargé de sel et regardaient la lune levée sur la mer scintillante. « Mais mon enfant, disait Madame Lourmel, nous ne savons rien, ni de sa famille, ni de sa fortune, ni de sa conduite. « Mais maman, je l'aime !» s'écria la jeune fille avec l'audace de l'innocence. « Que dis-tu là, Jeanne ? » reprit la mère. « Tu ne le connais même pas. » Et Jeanne, dont les beaux yeux brillaient d'une tendresse un peu mutine, repartit. « Maman, je ne le connais pas, mais je le reconnais. » Monsieur Alidor Sainte-Lucie, arrivé depuis 12 heures à Paris, n'avait pas encore vu son fils. Il l'avait vainement cherché dans la gare et vainement attendu à l'hôtel. Cette absence l'offensait. Ses nerfs, ébranlés par un long voyage, avaient ressenti, sur le paisible sommier de l'hôtel, le tangage du navire et la trépidation de l'express. Il se réveilla mécontent. Le vague malaise qui traversait ses membres résonnait dans son cerveau. Couché à demi dans un fiacre et cahoté sur le pavé des rues montantes, il songeait, avec mauvaise humeur, à l'éducation de son fils que M. Godet Laterrasse menait si mollement. 4 ans s'étaient passés et Rémi n'était pas bachelier. C'était donc pour obtenir un semblable résultat qu'il avait choisi comme précepteur un homme pauvre mais supérieur. Il avait mieux espéré de M. Godet Laterrasse, si éloquent et si austère dans les cafés politiques. Les lettres qu'il recevait du précepteur l'agaçaient par leurs vagues et leurs creux. Il était en outre furieux contre Rémi, qui n'était pas venu embrasser son père à la gare comme il le devait. Une odeur de friture vint agacer ses narines. Le fiacre montait lentement, traîné par un maigre cheval qui, la tête basse et la langue longue, tendait les chines au fouet. Enfin, le cocher s'arrêta sans rien dire. Devant la portière du fiacre, les 160 marches du passage Cotin s'élevaient roidement. M. Alidor, descendu de voiture, donna au cocher une pièce de 100 sous que celui-ci, bourgeonné de visage, énorme et poudreux, mit entre ses dents sans s'expliquer davantage. Alors commença une longue scène muette. Le cocher, mouvant avec lenteur sur son siège sa masse colossale, fouilla dans une de ses poches dont il tira un sac, s'arrêta pour surveiller sa bête qui remet convulsivement, explora une autre poche, poussa son cheval quelques pas en avant pour se garer d'un camion qui ne le menaçait pas, retourna les goussets de son gilet rouge et finalement montra 7 sous au voyageur exaspéré. C'est tout ce qu'il pouvait rendre. Il n'avait pas d'autre monnaie. M. Alidor lui tourna le dos avec rage et l'entendit fouetter son cheval en grommelant. Les irréprochables bottines vernies craquèrent sur les pierres disjointes du passage Cotin et gravirent de degré en degré la voie ardue qui se mettait en plein été des humeurs infectes et gluantes. Enfin, après avoir glissé sur les degrés visqueux de l'escalier intérieur, M. Alidor agita la patte de biche qui pendait à la porte moisie. Après un assez long silence, la porte s'entrebâilla et laissa passer une tête encornée d'un madras multicolore. L'homme supérieur, réveillé en sursaut, avait enfourché à la hâte un pantalon crotté d'une boue très ancienne qui s'écaillait. Une odeur de tabac humide pesait dans l'air. Un jour verdâtre, épuisé par de nombreux ricochets, filtrait péniblement à travers les vitres sales. Des caricatures politiques étaient épinglées au mur. Le lavabo était envahi par des livres crasseux et débraillés. Un morceau de savon, un peigne et la moitié d'un petit pain se mêlait à des manuscrits, à des dictionnaires sur la table à écrire. Cette misère révélait une telle habitude de paresse et de désordre que M. Sainte-Lucie, après un seul coup d'œil jeté sur la chambre, connut le précepteur comme s'il l'avait suivi de café en café pendant 20 ans. Le malheureux créole s'efforçait de relever, par la dignité de sa tenue, l'ignominie de sa demeure. « Oh, excusez-moi, dit-il à l'ancien ministre, de vous recevoir dans le désordre d'une cellule d'anachorète moderne. » Et il ajouta en se redressant, « Mais les bénédictins du XIXe siècle, c'est nous !» Et il fourrait à la dérobée dans ses poches le peigne et les croûtes de pain qui déshonoraient sa table. Monsieur Sainte-Lucie dut reconnaître intérieurement qu'il s'était trompé lui-même et qu'il n'avait pas été trompé. Comment Monsieur Godet la Terra s'est-il pu tromper quelqu'un? Ce lézard crotté était pitoyable. Mais s'il y avait un sentiment étranger à l'âme de Monsieur Alidor Sainte-Lucie, c'était bien la pitié. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même, et c'est ce qu'il pardonnait le moins à son innocent précepteur. Dans sa colère, il serrait les lèvres et jetait des regards sombres. Mais il éprouva bientôt une volupté spéciale à dissimuler. Il fit prendre à sa voix douce d'homme fort un accent presque câlin pour dire « Mon cher monsieur Godet, pardonnez-moi de vous avoir pris au saut du lit. » Et quel regard il jeta ce qu'il nommait poliment un lit. « Ma première visite a été pour vous. Nous irons surprendre Rémy, que j'avais averti de mon arrivée, qui s'en est fort peu inquiété. Je veux lui tirer les oreilles. » À ces mots, un frisson d'épouvante agita le précepteur, qui, si haut qu'il leva la tête, voyait au-dessus de lui le visage énigmatique du mulâtre. Il essaya un sourire et répondit en balbutiant qu'il avait donné congé à Rémy pour cette journée et que l'étudiant devait sans doute faire une partie de campagne. Le malheureux n'avait gagné qu'un jour. Il le passa en recherche qui le harassèrent et ne lui firent rien découvrir. Le lendemain matin, dès 8 heures, M. Sainte-Lucie reparut dans la cellule que le bénédictin du XIXe siècle avait un peu mise en ordre. Lui-même s'y tenait en cravate blanche, avec cette expression stoïque qui le rendait si remarquable dans les cérémonies. La peur que lui donnait l'ancien ministre de Soulouk n'était pas son seul tourment. Il avait peu de crédit dans l'impasse du baigneur et ne possédait pas 20 sous. Il était aux abois. Les 200 francs qu'il touchait chaque mois au consulat d'Haïti étaient régulièrement écornés par les acomptes qu'il versait à divers fournisseurs. Car il était honnête. Le reste de la somme ne lui faisait pas un long usage. Son geste favori était de répandre l'or. Il suivit M. Sainte-Lucie avec un excès d'inquiétude qui l'étourdissait, l'aveuglait, l'anéantissait et devenait peu à peu de l'indifférence. Réveillé en sursaut par la voix du haïtien qui nommait au cocher la rue des Feuillantines, il essaya de gagner encore quelques heures. « Cher monsieur, dit-il, nous aurons toutes les chances de trouver Rémy que dans l'après-midi, à l'heure de Malson. » Le mulâtre, méfiant et dissimulé, soupçonna qu'on lui cachait quelque chose. Il eut comme de la joie à emmagasiner les griefs dans sa mémoire et répondit avec une bonhomie parfaite « Eh bien, allons déjeuner, vous devez avoir faim, monsieur Godet. » Ils déjeunèrent dans un café du boulevard. Le précepteur mangeait peu et regardait avec épouvante le mulâtre colossal avalait les viandes qui nourrissaient sa force. Jamais cet homme ne lui avait paru si grand et si large. D'énormes bras aux muscles de bronze apparaissaient sous les manchettes boutonnées d'or du haïtien, qui parlait avec une douceur presque enfantine. Le pétillement de ses yeux cruels était amorti par des cils abaissés avec confiance. Et cette confiance ajoutait aux angoisses du précepteur. Le déjeuner traîna en liqueur et en cigares. Il finit pourtant. Et la voiture, amenée par un garçon de café, emporta vers la rue des Feuillantines le père et le maître. Celui-ci espérait un miracle. Il s'attendait presque à trouver, par un coup de la Providence, Rémi occupé dans sa chambre à piocher son Tacite. La première parole de la maîtresse d'hôtel fut foudroyante. « Monsieur Rémi n'a pas reparu, » dit-elle. « Il faut avertir la police. » Monsieur Alidor se tourna vers le précepteur en croisant les deux bras. Sa face était brune et mate, mais ses lèvres étaient blanches et ses yeux injectés. Les dents serrées, il demanda avec une voix de gorge, « Mais où est-il? Vous me répondez de lui ?» Puis il étendit sa forte main et saisit le bras du précepteur qui, puisque la terre ne s'ouvrait pas sous lui, devant le bureau de l'hôtel, leva la tête et contempla la cage de l'escalier. Jusque dans son écroulement même, il restait sublime. Monsieur de Sainte-Lucie jeta un regard de côté, vit des chandeliers de cuivre rangés sur une tablette, des clés étiquetées et une affiche de Licorens, chose qui témoignait d'une civilisation européenne. S'il avait vu autour de lui des mornes arides, les parois abruptes d'une ravine ou les palétuviers de son île, il aurait cédé vraisemblablement au désir voluptueux d'étrangler le précepteur. Il s'abstint par respect pour les mœurs continentales, et il se contenta de dire « Ben je ne vous quitte plus, que vous ne l'ayez retrouvé. » Alors commença la série des courses en fiacre. Monsieur Godet la terrasse guidait le mulâtre muet. Il dînait avec lui dans des restaurants somptueux, recevait les sourires amènes des garçons et mangeait des mets succulents. Il montait le soir sur des tapis sourds l'escalier de l'hôtel, et l'ombre démesurément allongée de son compagnon inévitable montait à son côté. Il entrait dans une belle chambre dont la clé se refermait sur lui et ne grinçait le lendemain matin que pour le rappeler à cette existence somptueuse et cruelle. Un fiacre qui les attendait dans la rue les prenait et roulait tout le jour. Ils allèrent au Chat Maigre. Virgile étala devant le père beaucoup d'intérêt pour le fils. « Elle avait reprisé, disait-elle, le linge de Monsieur Rémy. Elle se serait jetée au feu pour lui. Oh, elle n'était pas une femme comme il y en a tant. Ben, les voir à la morgue, » ajoute-t-elle en soupirant. Elle s'enfuit dans la cuisine pour reparaître un moment après, le nez rouge et les paupières fripées, et tenant à la main une note que M. Rémy n'avait pas réglée. Elle profita aussi de la circonstance pour appeler à M. Godet les consommations qu'il lui devait. Mais l'homme de fer avait oublié son porte-monnaie. D'ailleurs, il ne luttait plus. Sa captivité roulante l'épuisait. Il fut traîné du Chat Maigre à l'atelier de la Banne. Le sculpteur déclara, en caressant sa barbe rutilante, qu'il ne voyait pas encore le monument expiatoire des victimes de la tyrannie. Il étudiait la flore des Antilles. Il montra à M. Sainte-Lucie un chevalet déjà à moitié enseveli sous un amoncellement de livres. « C'était le chevalet de Rémy, » dit le sculpteur. Ah, le gaillard commençait à peindre avec une adresse de singe. Mon fils est peintre ? S'écria M. Sainte-Lucie étonné. Et par un geste qui lui devenait familier, il poussa le précepteur dans la voiture qui les attendait. Ils allèrent à la préfecture de police. Ils allèrent chez Dion, qui composait un poème sous des fleurets en croix. Une tête de mort, masquée d'un loup à barbe de dentelle, était posée sur sa bibliothèque. Ils allèrent chez Mercier, qui vivait avec une sage-femme fortement charpentée et haute en couleur. Ils allèrent au fond des Batignolles, dans l'atelier où Potrel faisait de la peinture. Ils allèrent chez une demoiselle Marie et chez une demoiselle Louise, qui appela l'ancien ministre papa et lui fit des agaceries. Un jour, après un excellent déjeuner, et voyant déjà le fiacre qui devait l'emporter, M. Godel à la terrasse demanda à M. Sainte-Lucie qu'il lui fût au moins permis d'aller dans son appartement chercher une chemise et des chaussettes. Mais le père, sans lui répondre, ordonna au cocher de s'arrêter devant le premier chemisier qu'il rencontrerait. Ce jour-là, ils allèrent chez Télémaque. Miragoâne, qui n'avait jamais vu de fiacre s'arrêter devant la boutique de son maître, aboya avec inquiétude. Et quand Télémaque vit descendre l'ancien ministre de l'Empereur, il fut saisi de respect et d'effroi. « C'est vous, mon cher Sainte-Lucie !» Il dit, se tut et sa bouche resta ouverte. Il coulait des regards furtifs sur le fiacre, dans la crainte que Soulouque y fût caché. Mais, rassuré à cet égard, il envoya un sourire à M. Godet la terrasse et descendit à la cave pour y chercher des bouteilles de bière. En son absence, M. Sainte-Lucie examina le portrait qui était suspendu dans un cadre doré au-dessus de la salle du comptoir. « N'est-ce pas, Boucher, que c'est quelque chose de beau ?» dit le noir, dont la tête seule passait au ras du sol. « C'est Boucher, votre fils, qui a peint mon portrait. Il est sorcier, Boucher Rémy. » Le père lança au précepteur le regard de deux prunelles chargé d'un venin noir. Ce fut tout. Quand il apprit de l'ancien ministre que Rémy était disparu, Télémaque réfléchit longtemps. Ses yeux mi-clos, comme ceux d'un matou qui s'endort, semblaient consulter ceux de Miragoâne. Enfin, il secoua la tête et dit avec une gravité religieuse, « Moucher, l'amour a emporté le jeune homme. » Les jeunes gens sont agités par l'amour comme le frère Vaudou quand il danse sur la cage du serpent. Une vieille femme qui fait bien la cuisine est quelque chose de bon, mais une jolie jeune fille est aussi quelque chose de bon. Télémaque se tut. « Vous savez où est mon fils ?» lui dit M. Sainte-Lucie. « Ouais, Boucher, lui répondit Télémaque, il est où est la jeune fille ?» On lui demanda où était la jeune fille dont il parlait. « Je sais pas, Boucher, » répondit-il. Et il sourit comme un petit enfant. M. Sainte-Lucie n'en put obtenir davantage. Il poussa le précepteur avec son paquet de chemises et de chaussettes dans le fiacre et adjura Télémaque de lui faire savoir tout ce qu'il pourrait découvrir à l'égard de Rémy. Télémaque était vêtu de noir. Il avait très bonne mine dans ses habits bourgeois, et le Suisse de l'hôtel lui indiqua sans hésiter l'escalier d'honneur. « Bonjour, Boucher, » dit-il à M. Alidor, qu'il trouva en veston rose et en pantalon à pied. « Je sais où est Boucher Rémy. Il est où est la jeune fille, et la jeune fille, elle est à Avranches sur la mer. » Il expliqua ensuite qu'ayant remarqué en plusieurs occasions que le jeune homme s'intéressait beaucoup à M. Sarriette, propriétaire à Courbevoie, il avait pensé que ce devait être à cause d'une jeune fille. Il avait appris par la bouchère et la boulangère que M. Sarriette, ou qui voyait peu de monde, était le tuteur d'une jeune fille orpheline de père qui habitait avec sa mère la rue des Feuillantines. Cette fille était jolie, disait-on. Et sachant que M. Sarriette était allé retrouver sa pupille dans un petit village près d'Avranches, Télémaque ne douta pas que mon cher Rémi le fît aussi à Avranches. Il affirma que frère Joseph, le prophète, n'eut pas mieux deviné, même après avoir dansé sur la cale du serpent. Monsieur Sainte-Lucie courut tirer de sa prison le précepteur, qui commençait à s'accoutumer à cette vie plantureuse et stupéfiante, et lui ordonna de faire ses malles. À cette cruelle ironie, Monsieur Godet la Terrasse regarda le plafond avec ses yeux de caniche et de martyr qui le rendaient si touchant. On lui fit acheter quelques mouchoirs par un garçon d'hôtel, et il dut rouler aux côtés du moulâtre sur la ligne de Normandie. Les deux voyageurs passèrent la nuit à Avranches. Le lendemain matin, une lumière douce argentait la baie de sable au fond de laquelle le mont Saint-Michel mettait sa pyramide brune et dentelée. Monsieur Sainte-Lucie entraîna Monsieur Godet la Terrasse jusqu'à la voiture publique qui devait les conduire au village des Bains. L'ancien ministre se jeta dans le coupé et fit placer son prisonnier sous la bâche entre deux caisses dont les angles lui entraient dans les côtes. Arrivé sur la plage par un joli temps d'un gris tendre, M. Sainte-Lucie enferma sa victime dans une chambre d'hôtel. L'hôtelière, interrogée, répondit que M. Rémy, accompagné de M. Sariette, était parti avec sa boîte de couleurs du côté des falaises. En effet, après 10 minutes de marche, M. Alidor trouva son fils tranquillement occupé à peindre des rochers. Le père eut envie tout à la fois de l'assommer à coups de canne et de l'embrasser à tour de bras. Il ne savait lequel de ses deux désirs satisfaire quand Rémy lui sauta au cou. Ce n'était plus le grand enfant maussade que son père avait vu 4 ans auparavant. C'était un robuste gaillard, bien éveillé et de bonne humeur. Il avait la mine ouverte et souriante. « Quel bonheur que vous soyez venu, papa !» s'écria-t-il. « J'allais vous écrire. »« Monsieur Sariette, que je vous présente, vous présentera à madame et mademoiselle Lourmel. » Monsieur Sariette cessa de mesurer la falaise avec son parapluie et salua. Le soir, sous l'innombrable armée des étoiles, M. Alidor Sainte-Lucie, paré de toutes ses grâces créoles, offrait le bras à Madame Lourmel pour faire un tour de promenade sur la plage. Rémy marchait à côté de Jeanne et regardait les ombres bleues de la nuit descendre des cils de la jeune fille sur ses joues rondes. Elle tourna sur le jeune homme ses yeux frais comme des violettes trempées de rosée, et laissant voir ses dents sur lesquelles descendait un rayon de lune, elle dit « Maman ne comprenait pas du tout, mais pas du tout, pourquoi vous étiez parti en voyage en même temps que nous, sans chapeau ou avec des pantoufles et un veston. Mais moi, j'ai bien compris que c'était parce que vous vouliez m'épouser. » Monsieur Alidor, resté seul avec son fils, lui dit d'un ton moitié tendre, moitié bourru. « Elle est très bien, cette jeune fille. Tu n'en méritais pas une pareille. J'ai eu bien tort de ne pas raconter à Madame Lourmel la vie que tu as menée à Paris, polisson. Sais-tu peindre au moins ?» Tout à coup, il se frappa le front. « Oh ! Et cet imbécile de Godet que j'ai laissé enfermer dans sa chambre !» s'écria-t-il.